Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le député Les Républicains Éric Ciotti, qui est aussi président de la commission d'enquête parlementaire sur l'attentat à la préfecture de police de Paris.
Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Effectivement, depuis mi-octobre, vous avez auditionné une trentaine de personnes, agents de la préfecture de police, préfets, membres des services des renseignements, pour tenter de comprendre ce qui n'a pas fonctionné à la préfecture de police de Paris. Je rappelle que 4 agents de la préfecture ont trouvé la mort, tués par Michael Harpon, un agent informatique qui travaillait à la préfecture de police et qui s'était peu à peu radicalisé. Vous avez mené ces auditions, Éric Ciotti, à huis clos, certaines sous le sceau du secret. Qu'est-ce que vous avez appris ?
Nous avons appris, malheureusement, après ce drame terrifiant, inédit, un drame au cœur d'un service de renseignement, d'un service de lutte contre le terrorisme, nous avons eu connaissance, en gros, d'une faillite collective. Je le dis, compte tenu du profil de Michael Harpon, compte tenu des signes, ce qu'on appelle les signaux faibles en matière de radicalisation, de lutte contre le terrorisme, qu'il a émis à plusieurs reprises. Il n'y avait pas qu'un signal faible, il y en avait malheureusement plusieurs cumulatifs. Il n'aurait jamais dû rester dans un service aussi sensible.
Il n'aurait jamais dû
se trouver là. Je le dis très clairement, il y a ce qui s'est passé autour de lui à la préfecture de police depuis des années et les failles, les fautes, les dysfonctionnements qu'on a pointés, qu'on a découverts au gré des auditions. Vous avez raison de le souligner, on l'a fait à huis clos, on l'a fait souvent même sous le régime du secret. On n'a pas voulu médiatiser cette affaire qui est avant tout un drame. Mais nous, ce que nous avons voulu, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire en sorte que cela ne se reproduise plus, qu'on élève notre degré de protection dans nos services les plus sensibles. On va travailler aussi sur les emplois sensibles dans la police, mais aussi dans les transports. Ça sera la deuxième
d'abord,
vague.
On va revenir au cœur de l'attaque. Vous avez interrogé ceux qui partageaient son bureau. Certains, vous le disiez, ont assisté à l'horreur de l'attaque. Est-ce qu'ils se méfiaient ? Est-ce qu'ils avaient des inquiétudes ?
On a eu un témoignage assez édifiant d'un de ses collègues qui nous a dit « Je n'avais pas d'inquiétude physique, mais en revanche, j'avais des inquiétudes compte tenu de sa vulnérabilité que certains l'utilisent pour capter des données informatiques. » Il faut savoir que M. Harpon avait accès à toutes les données informatiques. Il était habilité pour cela au secret de la Défense nationale depuis 2003. Son habilitation avait été renouvelée plusieurs fois, la dernière fois en 2013. Et donc, il avait accès à toutes les données. Mais il y a eu une accumulation de signes. D'abord,
n'avait pas peur d'être attaqué.
C'est ce qui nous a été dit. Mais on avait...
Mais plutôt d'utiliser les données sensibles.
Ses collègues et sa hiérarchie de proximité avaient détecté ces failles. D'abord, sa conversion à l'islam. C'est un signal faible dans les autres grands services.
Mais vous vous rendez compte si tous les gens qui se convertissent à l'islam sont de potentiels terroristes ?
On est, Alba Ventura, dans un service de renseignement. Traite des dossiers extraordinairement sensibles. Dans les autres grands services de renseignement, il y a, quand on est recruté d'ailleurs, une charte qui indique l'obligation d'informer une modification des pratiques religieuses, naturellement, quelles qu'elles soient. Il y a également une pratique plus radicale de sa religion qui avait été modifiée. Le fait qu'il ne fasse plus la bise aux femmes. Il y avait le fait qu'il avait, après Charlie, une altercation violente avec un de ses collègues. Où il y avait dit, c'est bien fait, on ne touche pas au prophète. Donc tous ces signes, on n'est pas dans le service des cartes grises. Et même dans le service des cartes grises, il aurait fallu prendre en compte naturellement ces événements. On est dans un service de lutte contre le terrorisme où ce monsieur était habilité au secret défense.
Est-ce que vous avez identifié, pardon de le dire comme ça, mais un responsable, quelqu'un qui à un moment ne fait pas remonter l'information ou ne traite pas les informations, puisque enfin, vous dites quand même qu'il y a des signes tangibles qui montrent que cet homme est en train de se radicaliser.
Les responsables, ce sera la justice de le faire. On n'est pas, nous, on ne va pas se substituer à la justice, éventuellement, je ne sais pas.
Mais en tout cas, vous avez perçu que les gens que vous avez auditionnés n'ont pas vu la radicalisation.
Il y a des failles collectives au sein de la préfecture de police, au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police. Elles sont anciennes. Des choses ont été améliorées, je le dis, notamment par la directrice actuelle, depuis qu'elle a été nommée. Mais la direction du renseignement et la préfecture de police ne sont pas aux standards de sécurité que l'on retrouve dans nos autres services de renseignement, qui sont parmi les meilleurs au monde, je le dis, qui ont évité... beaucoup d'attentats, y compris la DRPP, bien sûr. Donc, il y a des professionnels de grande qualité, il y a des policiers de grande qualité, et je leur rends hommage, mais il y a des procédures collectives qui n'ont pas été mises en œuvre,
enfin,
et qu'il faudra mettre en œuvre aujourd'hui.
Ouais,
je
on
pense
a quand
aux procédures
donné
d'habilitation,
habilitation, voilà,
bien sûr.
Bah,
mais vous savez, à la préfecture
comment
de police...
Comment on donne une habilitation secret défense
les enquêtes...
à un homme dont on voit qu'il est en train de se radicaliser?
Les enquêtes d'habilitation, elles étaient faites de façon un peu plus souple qu'ailleurs au sein de la direction du renseignement par les agents eux-mêmes de la direction du renseignement. Donc c'était ses collègues qui quelque part faisaient l'évaluation. Nous, ce que nous demandons, c'est que ça soit la DGSI, c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le Premier ministre,
le renseignement intérieur,
qui est le monopole de ces enquêtes d'habilitation pour tout ce qui relève du ministère de l'Intérieur, comme au sein du ministère de la Défense, dans les armées, c'est la direction du renseignement qui, de la sécurité, la DRSD, qui fait ces enquêtes. Voilà, il faut qu'il y ait un degré de sécurité beaucoup plus élevé. Et puis après, se pose soit on augmente au sein de la DRPP le degré de sécurité,
la ça, DRPP, la direction
du renseignement de la préfecture de police, soit on intègre une partie des missions de cette direction, celle qui concerne la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme au sein de la DGSI. Moi, je suis pour des organisations centralisées. Quand il y a de multiples organisations, c'est source de difficultés, c'est source de confusion, de doublons.
En tout cas, Éric Ciotti.
On avait déjà eu une difficulté au moment du suivi des frères Kouachi, hein, puisqu'il y avait eu un couac entre la DGSI et la DRPP. Je l'avais pointé dans une autre commission d'enquête. Il faut tirer les leçons de tout cela, et nous le ferons mi-avril, lorsque le rapport avec rapporteur Florent Boudier sera publié.
Est-ce qu'on peut former en tout cas maintenant des agents à détecter ce type de profil?
Naturellement, et c'est le cas dans les autres services.
Ça n'a pas été le cas.
Ce n'était pas le cas aussi, vous avez raison de le souligner, ça a été une des conclusions au sein de la DRPP. La détection dans l'environnement de proximité des agents, les procédures de signalement n'étaient pas formalisées, il n'y avait pas de référent radicalisation, il n'y avait pas de procédure de formation suffisamment développée.
Éric Ciotti, combien de signalements y a-t-il eu depuis l'attentat à la préfecture de police,
il y
de
en a
signalement
eu,
de radicalisés, donc.
Il y en a eu 44. Alors, tous ne sont pas forcément avérés. Ils font l'objet d'enquêtes, mais aujourd'hui, il y a 9 agents, 9 policiers de la préfecture de police qui ont été notamment désarmés. Donc, ça veut dire qu'on est dans des cas graves. Il y a des procédures de suspension qui ont été mises en œuvre, mais là aussi, et ça fera partie de nos propositions, on se trouve souvent dans des procédures administratives qui sont inadaptées. Moi, je demande que lorsqu'il y a un doute sur une personne, eh bien, il n'y ait pas de doute pour la société, que la protection de la société prime sur la protection de l'individu. Donc, il faudra peut-être qu'il y ait des magistrats habilités au secret défense, qui aient connaissance d'éléments qui permettent de suspendre, voire de radier beaucoup plus facilement des agents. Ça vaut pour la police, mais ça vaut pour d'autres services administratifs.
Au-delà de cet attentat, pour lutter contre le risque terroriste, vous allez déposer une proposition de loi pour étendre la rétention de sûreté aux terroristes.
Oui, qui sortent de prison. La principale menace, on parle du retour des djihadistes, j'y suis totalement opposé, c'est une menace. Mais la menace beaucoup plus grave, celle qui aujourd'hui préoccupe au plus haut point nos services de renseignement, ce sont les sorties de prison. Plusieurs centaines de personnes condamné pour acte de terrorisme ou radicalisé en prison vont sortir dans les 3 années à venir. C'est une menace majeure. En 2021, notamment, il est prévu que plus de 100 personnes sortent de prison. Il en est sorti plusieurs dizaines déjà. Donc c'est une menace. On a vu ce qui s'est passé à Londres. Donc ce que nous voulons, ce que je propose, j'ai déposé 2 propositions de loi, une constitutionnelle et une autre simple en ce sens, c'est de s'inspirer de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy pour les criminels sexuels. C'est-à-dire qu'au-delà de la peine, quand on considère qu'une personne est dangereuse, elle reste à l'isolement dans un cadre qui protège la société. Il faut modifier la Constitution.
Mais jusqu'à quand on le garde ?
Il faut modifier la Constitution tant qu'il est dangereux.
Merci Eric.
Merci à vous.
C'est une faillite collective. Jamais le quadruple meurtrier de la préfecture de police de Paris n'aurait dû se trouver là, vient de nous dire Eric Ciotti, le président de la commission d'enquête sur le drame qui a eu lieu. Confirme par ailleurs 44 signalements depuis l'attentat, dont 9 policiers qui ont été désarmés. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver.